respirer le vent ici. La vie est calme, les anges me caressent. Et je fume dans les rues sans le stress. Un peu comme à l'ancienne, loin de mes problèmes. Là où on vient, juste sentir la chaleur. Et sentir la douceur du vent des montagnes. Sweet Colorado, la radio joue un morceau de cowboy. Sweet Georgia boin dans les cheveux. Je fume une cigarette, papier maïs. Au coin de la sixième, je viens du nord pour rejoindre l'ouest. Je pose mes valises chez Lizzie à Denver City. C'est là que le train me laisse.
Écoutez, Conduite Antisportive, édition du mardi 18 mai. Il est 15h, bien pile. Je suis en compagnie de Jonathan Paradis. Mon nom est Gabriel Tremblay. Comment ça va, Joe?
Yes, bonsoir. Ça va bien?
Yes, je suis en grande forme.
Yes, hey, c'est le temps de l'année en ce moment.
C'est le temps des allergies, oui.
c'est pas sur ça que je m'enlignais, mais je aussi. Donc, hey, série au basket, série au hockey. Le baseball bat son plein aussi en ce moment.
Tout à fait.
C'est merveilleux.
C'est le grand moment là, de l'année pour le sport. La saison de baseball qui bat son plein, le hockey qui se termine, c'est les séries. C'est le moment crucial des séries éliminatoires au hockey. Le basket commence aussi.
Ah, ça en est déchirant là, le soir quand tu choisis ton programme. Il faut faire des choix.
Là, t'écoutes beaucoup de baseball ces temps-ci.
Ouais, c'est ça. Là j'essaie de m'enlever un peu de ça. Je suis trop excité en ce moment. En plus, avec toutes les nouvelles, on va en parler aujourd'hui, là, mais ça brasse tellement, c'est fou.
On a du stock à jaser.
Mais c'est sûr que là, avec le hockey aussi, là, qui bat son plein, puis on a des matchs assez intéressants aussi.
Pas le choix,
donc,
effectivement.
Ça donne le goût d'en regarder, c'est sûr.
Effectivement, je regardais justement, on va en parler un peu plus tard, mais Boston-Washington, mon Dieu, que ça frappe cette série-là.
Ouais,
c'est du bon vieux hockey d'antan, là, de coups d'un tibia, puis de mise en échec assez solide, merci.
Le bon Brad Marchand mis de l'avant.
Eh oui, qui marque en prolongation.
Ouais,
manger de marde, un vrai bon manger de marde, ce Brad Marchand.
Comme toute l'équipe, d'ailleurs.
Effectivement. Donc, on commence le programme en parlant de hockey, justement. Après ça, on va faire une petite escale entre deux sujets chauds. On va parler de tennis, alors qu'un des plus grands, sinon le plus grand joueur de tous les temps, Roger Federer, recommence à fouler les terrains un peu partout en Europe. J'ai bien hâte de vous en jaser. Et après ça, bien évidemment, on termine l'émission en baseball, soulignant aussi l'absence de Pierre-Alexandre Tremblay qui termine ses examens. Donc, bonne chance à PE qui finit en géomatique. On le souhaite. Voilà. Sinon, ben, il va avoir des cours d'été, le petit minou. pendant qu'il y a des matchs de baseball puis que nous, on se pogne le beigne. Yes, sir, on commence en musique. Jonathan, Krim, j'ai le goût de te lancer une pièce puis tu me diras ce que t'en penses. J'ai trouvé ça tantôt dans notre banque de données. C'est un groupe qui s'appelle Volleyball de plage. La tune, c'est Ligue des Cactus. Ligue des Cactus qui est bien connue au baseball. Mm-hmm. Tu connais la Ligue des Pamplemousses et la Ligue des Cactus. Donc, je propose ça. C'est Volleyball de plage, la pièce Ligue des Cactus sur les ondes de Chis 94.3. Vous écoutez Conduite Antisportive.
Sur l'équipe perdante. à bonne distance de la foule triomphante.
C'était Volleyball de plage avec la chanson Ligue des Cactus, un groupe qu'on vient de découvrir en même temps que vous à 694.3, un band de Montréal. Crime, j'adore le titre et les visuels aussi, des vieilles images d'équipes sportives des années 60-70, de toute beauté. Bravo, Volleyball de plage. Jonathan, on continue notre tour d'horizon du monde du sport avec le hockey, notre sport de barbare préféré. Écoute, j'ai épluché un peu les matchs qui ont eu lieu hier, entre autres entre les l'Avalanche du Colorado et les Blues de Saint-Louis. C'est un match-up que j'aime bien là. C'est une série que j'affectionne particulièrement, considérant que ben, j'ai misé sur les Blues en début de série
avec un peu trop de confiance à mon goût.
Tout à fait. Je le regrette presque en fait, mais surtout que là David Perron est sur la liste de COVID, donc il ne dispute pas de partie en ce moment. C'est difficile pour les Blues. L'Avalanche, il l'a emporté 4-1 hier. Victoire assez unanime, merci. Philippe Grubauer devant les buts de l'Avalanche a été intraitable. C'est difficile pour l'attaque des Blues. Là, je regardais Vladimir Tarasenko manquer des chances, là, des opportunités béantes. Là. Donc, c'est vraiment difficile pour la finition du côté des Blues hier soir. L'Avalanche qui mène la série 1-0. C'était le premier match de cette série-là.
Non, c'est sûr, les cartes sont pas toutes jouées.
Non.
Mais l'Avalanche aussi, offensivement, est sortie. Écoute, en feu. On a 50 tirs au but face à 23 pour Saint-Louis.
Là,
ouais. Comme tu parles de ça, Tarasenko qui a perdu un peu aussi...
De son lustre.
Ouais, c'est pas le Tarasenko qu'on connaissait des dernières années, du moins dans les séries. Là. Mm. Donc, j'espère que ça va être un peu plus excitant de leur côté pour les prochains matchs. Comme on dit, c'est le premier de 7...
Effectivement, ouais, effectivement. Braden Shen a essayé d'un peu brasser les cartes hier soir. Il a donné une mise en échec, un coup de genou assez féroce à Mikko Rantanen. Et bien, le capitaine Gabriel Landeskog s'est rué sur Braden Shen. C'est un bon combat d'ailleurs. Deux gars qui sont plus reconnus pour leurs points avec un T et non avec leur G. c'était très bon. C'était un bon duel, sérieusement. Mais effectivement, écoute, le but de Karl Makar en... avantage numérique était de toute beauté, tir du poignet, top lucarne, c'était un bijou. Effectivement, je pense qu'il y a trop de profondeur du côté de l'Avalanche en ce moment, surtout que, comme je disais, Perron est blessé et sur la liste de COVID du côté de Saint-Louis. Ça va être difficile sans leur meilleur marqueur.
Et c'est les favoris, si je ne me trompe pas, remporter ouais, les grands honneurs.
Moi, je ne les placerais pas favoris. C'est un club beaucoup trop jeune, à mon avis. Là. Il y a des clubs, justement, comme...
Juste l'an dernier, on les plaçait quand même assez haut. On les voyait gagner, donc cette année, encore qu'une année de plus, c'est avec
sûr.
La profondeur qu'ils ont, comme on dit.
C'est sûr, effectivement. Mais j'ai hâte de voir, il y a des clubs comme Boston puis Washington, moi, qui m'épatent vraiment. Je pense qu'il y a un gros niveau de jeu entre les matchs que je regarde entre Colorado, Saint-Louis et Boston-Washington, par exemple. Là, ça va à un rythme effréné, contrairement à... C'est un truc que je pense que le match-up est peut-être inégal aussi, et l'Avalanche s'ajuste un peu au niveau de jeu des Blues en ce moment. Mais Boston-Washington, c'était débile. Là. C'était
non,
complètement
c'est
fou.
C'est vraiment pas la même expérience.
Surtout qu'on a deux matchs pour jouer aussi, là, contrairement à un seul du côté de l'autre série. Mais écoute, Boston qui a créé l'égalité dans la série hier 1-1 en emportant 4-3 en prolongation, un but de Brad Marchand à la toute fin, en fait après 48 secondes en prolongation. C'est fou le trio, le Pasternak, Bergeron, Marchand, je veux dire. C'est de loin le meilleur trio de la Ligue nationale. Autant en termes d'impact à chaque présence que... physiquement, ils sont assez robustes aussi. Bergeron s'en laisse pas imposer, gagne tous les mises au jeu. C'est vraiment le trio parfait, à mon humble avis. Là. Je sais pas ce que t'en penses, Joe, de ce trio-là. Moi, je veux dire, je me pars un club demain, une dynastie, une franchise dans la Ligue nationale. Je commence avec ces trois gars-là demain matin.
Ouais, puis on repense à l'an passé encore, quand ils se sont rendus jusqu'en finale de la Coupe Stanley.
Oui.
C'est grâce à ces trois joueurs-là en grosse partie. Là, maintenant, avec Taylor Hall qui s'ajoute aussi, qui a compté hier.
Taylor Hall a marqué à la toute fin en troisième période pour créer l'égalité. Un but, on va dire, un vrai déchet. Là. Il a pelleté devant le net. Là. Il a vraiment pelleté un but, mais écoute, ça a marché.
Ouais. Ça a fait la différence aussi. Là. C'est des matchs extrêmement serrés. Pas juste dans cette série-là. D'ailleurs, là, la veille, on a connu les trois matchs en prolongation.
Exact.
Ce qui rend ça excitant, c'est le fun, des matchs en prolongation.
Ouais, tout à fait.
Ça prouve que c'est serré et c'est vraiment les bonnes équipes qui se retrouvent, je pense, dans les séries en ce moment.
Exactement. C'est signe de qualité. Il y a aussi, en fait, les Capitals de Washington qui ont perdu les services de leurs deux premiers gardiens, Vitali Vinatchek et Ilya Samsonov. Ça va pas super bien du côté des gardiens pour Washington. C'était Craig Anderson, le vieux routier qu'on connaît pour ses années à Ottawa, entre autres, qui était devant la cage des Capitals hier. Il a pas mal fait, on s'entend. Là. Je veux dire, il a gardé son équipe dans le match, visiblement. Mais Craig Anderson, il pourra pas garder les buts d'une série au complet contre un club comme Boston.
Non,
ça marche pas. Je pense que Samsonov est prêt d'un retour au jeu, là, si je me trompe pas, donc à voir. Mais ça regarde mal du côté de la défensive des Capitals. Un autre duel que j'ai sur mon radar, Jonathan, c'est le duel entre les Hurricanes et les Prédateurs de Nashville. Ça aussi, c'est un duel que j'aime bien. Les Prédateurs sont là contre toute attente, disons-le. Surtout qu'ils ont eu un mauvais début de saison, un atroce début de saison, un point tel où on les voyait comme vendeurs à la date limite des transactions, mais finalement, ils ont gagné leur billet pour les séries.
Je les voyais même pas en série se qualifier, en fait, même, c'est ça, ils ont bien remonté la côte.
Ouais.
Là, contre les Hurricanes, c'est un match-up quand même intéressant. Ça, on n'est pas habitué de voir une équipe de l'Ouest contre une équipe de l'Est s'affronter en première ronde. C'est bien intéressant, mais les Hurricanes devraient l'emporter quand même facilement. Les Hurricanes, moi, c'est l'équipe vraiment que je vais avoir mon œil dessus pour les séries. Beaucoup d'attentes envers cette équipe-là. Ils sont excitants à regarder aussi. Hier, en Caroline, l'ambiance était électrisante.
Ouais, il y avait 13 000 spectateurs, je crois, 12 ou 13 000.
ça fait longtemps qu'on n'a pas vécu,
on a vécu ça,
même à travers nos écrans, c'était hallucinant. Donc,
ouais,
les Hurricanes, ils l'ont emporté 5-2 hier quand même.
Ouais, grosse victoire.
De loin, le match le moins serré des séries jusqu'à présent.
Tout à fait. Et ben, on a dirigé près de 40 tirs sur la cage de, je pense, 38 ou 37 contre 24, je pense, des Prédateurs. Près de 40 tirs sur la cage de UC Saros, qui a bien fait. Là, il a vraiment gardé son équipe dans le match. J'ai regardé des arrêts phénoménales qu'il a fait. Par contre, il y a beaucoup trop d'offensives du côté
des Hurricanes. C'était quand même 2-2 après la deuxième période aussi. Là, donc, ça n'explique pas le match. Là, c'est vraiment une remontée vers la fin du match pour les Hurricanes. Ouais. Mais justement, qu'on parle de leur offensive avec Teravainen,
Svechnikov, Sébastien Aho. Écoute, c'est débile. Nino Niederreiter. Tu sais, c'est des gars. Nino Niederreiter joue sur le quatrième trio, je pense. Là, c'est juste débile. Martin Nekas aussi est complètement fou. Justement, le but d'assurance, parce que c'est un but dans un filet désert, est venu du bâton de Andrei Svechnikov, le joueur russe qui a marqué dans une cage béante. Donc, c'est ce qui fait le tour des matchs qui étaient disputés hier.
Il y a une série qu'on ne peut pas passer à côté. C'est la Floride, les deux équipes de la Floride, en fait, qui ont développé une rivalité assez intéressante.
C'est vrai. Hein?
Même Sam Bennett a été suspendu du match pour un coup sur Coleman. Lors du match. Ça s'est pas terminé en prolongation, mais presque. C'est une remontée du Lightning 5-4. Mm-hmm. C'est juste avant la fin de la saison, on a vu deux affrontements back-to-back l'un contre l'autre. Et c'était assez intéressant. C'est les Panthers qui l'avaient emporté.
Ouais.
Mais c'est tout un affrontement aussi.
Puis là, Stamkos et Kucherov reviennent au jeu.
Aussi, ça va être dangereux.
C'est fou. Il y a un match ce soir, justement, à 20h entre le Lightning et les Panthers. Rappelons que le Lightning mène la série 1-0. Il y a aussi un absent de taille du côté des Panthers de la Floride. On le rappelle, Aaron Ekblad, qui n'est pas revenu au jeu. Là, ça fait mal, je pense, aussi à ce stade-ci de l'année là, pour les Panthers. Il manque un peu de profondeur en défensive. On a été chercher Brandon Montour à la date limite des transactions. Mais encore là, on ne peut pas pallier la perte d'un géant comme Aaron Ekblad.
Sinon, comme moi, si vous avez. Si vous voulez vous regarder les derniers matchs de la saison régulière, ça se passe encore.
Jonathan, tu m'as dit ça tantôt avant qu'on rentre en studio, que tu regardais le match Flames-Canucks, qui ne veut absolument rien dire parce qu'il y a des matchs des séries éliminatoires en ce moment. Et bien, la saison régulière n'est pas terminée pour ces deux clubs à cause que Vancouver, en fait, a eu une immense éclosion due au virus qu'on connaît au milieu de la saison environ. Là. Fait qu'ils ont manqué près de deux semaines d'activité. D'où les matchs qu'on voit en ce moment.
Oui, ils ont été frappés solidement et ça a été un bon affrontement aussi. Je me suis convaincu de regarder cette partie-là parce que je
t'avais
me suis
rien
dit
à faire.
Que...
C'est ça.
aussi. Non, parce que c'était vraiment une des dernières opportunités de pouvoir les regarder en jeu, malgré que, comme on dit, c'est jouer pour jouer.
Ouais.
Mais ça a été quand même un bon affrontement. Là. Les Flames ont remonté... les Canucks ont remonté d'un déficit de 5-1 et perdu finalement en prolongation. Et il reste un match ce soir, tantôt à 4h en fait, contre la même affrontement. Mm-hmm. Et demain, ça se termine officiellement, donc à 3h30. Canucks Flames. Ouais, c'est ça, là, je tournais les dates et on termine ça officiellement. Là.
C'est comme en fait une saison de match préliminaire ou match d'exhibition à la fin de la saison.
Ouais, ils ont comme leur mini-série là, pour se croire.
La finale des perdants. finale consolation.
La ronde des perdants, c'est ça.
Exactement.
Bien canadienne.
Puis toi, Joe, qu'est-ce que tu regardes sur ta TV ce soir? Est-ce que tu regardes le baseball ou tu regardes le hockey? Parce qu'il y a quand même des bons matchs. Là. Il y a Minnesota qui mène 1-0 contre les Golden Knights de Vegas.
C'est vrai.
C'est à 22h. Il y a aussi un club que t'aimes bien, je pense, les Islanders de New York, qui mènent leur série 1-0 contre les Penguins de Pittsburgh. Donc, qu'est-ce que tu regardes?
Définitivement, les Panthers contre le Lightning.
Ouais.
Et à 10h, on va flip le channel.
Pour, flip le channel!
Flip the channel. Ce que je fais très souvent quand je regarde du sport. Mais ça va être le Wild contre les Golden Knights. Le premier match, je suis très intéressant. 1-0 contre les deux. Je pense que les Golden Knights vont remonter pour cette partie, oui.
Okay.
Ben, bien confiant de leur côté.
Intéressant.
À domicile aussi pour eux. Donc, 10h ce soir, Wild contre Golden Knights.
En fait, pour les autres clubs, je souhaite que le Wild sorte... les Golden Knights, parce que les Golden Knights sont un des clubs favoris aussi. Puis,
et ça pour serait, le Wild aussi, ça serait...
Ce serait étonnant, oui. Puis pour des jeunes comme Kirill Kaprizov, puis pour des vétérans aussi comme Ryan Suter puis Zach Parise, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas été en série avec un club en reconstruction. Pourquoi pas? C'est une des plus belles surprises, sinon la plus belle surprise cette année dans la Ligue nationale, le Wild du Minnesota. Puis ça ferait du bien pour l'État aussi, qui en a mangé une claque ces temps-ci. Il y a plein de scandales tout le temps. Fait que...
Bien d'accord. Hein,
allons-y. Allons-y avec le Wild. On est avec vous. Les sauvages. Yes, Joe, est-ce que tu veux qu'on fasse une petite interlude avant de se lancer dans notre sport préféré, le baseball? J'ai aussi une parenthèse, disons-le, tennis à vous proposer au retour de la pause. Donc, je vous propose une petite pause musicale, une interlude. On s'en va écouter Zouz avec la pièce L'échappée sur les ondes de Chiz 94.3. C'était Zouz avec la pièce L'Échappée. Et pendant qu'on écoutait ça à Conduite Antisportive, ben on a réalisé qu'on a manqué quelques sujets en parlant de hockey tout à l'heure. On a fait ça vite. On a coupé dans le gras.
Ouais, dont une que je vais apporter, yes. Que je trouve quand même marquante, c'est Guy Lafleur aujourd'hui. La LHMQ a annoncé donc qu'il retire son numéro, mm-hmm. Le numéro 4 pour être précis.
Ouais, le
donc,
fameux numéro 4.
Ouais, donc c'est une grande nouvelle qui est sortie aujourd'hui pour la Ligue majeure du Québec. Mm-hmm. Puis on l'a vu dans une entrevue aussi, il a parlé, il s'est exprimé sur le Canadien de Montréal, bien mm-hmm. évidemment.
Qui comme, amorce, comme il fait si souvent, d'ailleurs.
Qui amorce la série jeudi contre Toronto. Et puis lui, il dit qu'il aurait fait jouer donc Cole Caulfield, qui évidemment. Est mis de côté pour le match en plus de Kotkaniemi et Romanov pour le premier match. Est-ce que tu les aurais fait jouer, toi?
Écoute, bonne question. J'aurais peut-être fait jouer Caulfield parce qu'il est sur une belle séquence, tandis que Kotkaniemi est plutôt dans une léthargie, si on veut. Romanov aussi, je l'aurais fait jouer, là, tant qu'à faire jouer un gars comme Brett Kulak, mais ça, c'est des préférences. Là,
purement, ouais, c'est ça. Il y a beaucoup,
dire un ou l'autre, je veux dire, ça va faire la job.
Ouais, ça va être à voir lors du premier affrontement, qui est très attendu aussi, on s'entend.
Ouais, et c'est la première fois en quoi...
42 ans, je crois.
Ouais, près de 50 ans que le Canadien affronte les Maple Leafs en séries éliminatoires. Et là, c'est en première ronde en plus, d'une division canadienne, donc...
Quand même. Juste l'énergie des partisans, là, ouais. Ça, c'est ben, un gros facteur.
Effectivement, puis je pense que c'est un avantage pour le Canadien, normalement. On l'a vu aussi cette saison-ci, là, les matchs à domicile...
Le Canadien en particulier, qui a des partisans assez très fanatiques, ouais, très engagés.
C'est une méchante grosse fourmilière, le Centre Bell, là, contrairement à plusieurs arénas comme la Floride, par exemple, ou l'Arizona, où c'est pas un facteur du tout, là, la part des fans puis le bruit. Pour certains joueurs qui l'ont affirmé dans le passé, c'est intimidant, c'est stressant de jouer au Centre Bell. Maintenant, dans un aréna vide, c'est une aréna comme les autres. Donc, on n'a pas cet avantage-là. Ouais. Effectivement. Aussi, on a annoncé que Jonathan Drouin allait être le candidat du Canadien pour le trophée King Clancy, remis à la détermination, l'acharnement et l'esprit sportif. On sait que Jonathan n'est pas dans l'équipe depuis quoi, deux, trois semaines déjà. Quitté l'équipe en raison de problèmes personnels, du moins. Mais on lui souhaite la meilleure des chances avec ce trophée-là. Pourquoi pas? Je sais que l'an passé, ça avait été remis à Bobby Ryan, qui a fait un retour au jeu après un processus de toxicomanie, de se prendre en main après avoir eu des problèmes d'alcool et de drogue. Donc, bravo à Bobby Ryan, qui a une belle saison en plus avec les Red Wings de Détroit, a marqué beaucoup de buts en début de saison. Donc, peut-être qu'un gars comme Jonathan Drouin, mais c'est sûr que là, on n'en sait pas vraiment sur sa situation. C'est peut-être plus grave qu'on le sait, ou du moins, on sait pas grand-chose, justement. Donc, à voir pour la suite des choses. Ce serait quand même, je veux dire, c'est un bémol pour le Canadien de se priver de Jonathan Drouin, là, qu'il soit un peu absent ou fantôme à quelques présences. C'est un gars qui a un sens du jeu et une vision hors norme qui est très peu exploité dans cette équipe-là. Je pense que Jonathan Drouin a des yeux tout autour de la tête. Il nous l'a prouvé à plusieurs reprises avec ses passes phénoménales. On l'a pas en ce moment, Jonathan Drouin. Puis ça va faire mal éventuellement, là, c'est officiel. Surtout dans un club qui est gorgé de talent comme Toronto, là.
Je suis d'accord. En plus, qu'on pense que c'est peut-être dû à la surpression un peu que l'équipe les médias, ouais, et les partisans de Montréal apportent sur un joueur, puis c'est peut-être nous-mêmes, dans le fond, qui aurait peut-être causé la perte, en fait, pour les séries, qui aurait pu être un très bon atout, en fait, pour les séries.
La pression des médias et des fans. Là,
j'ai jamais vu une ville aussi dure sur une équipe, en fait, puis sur des joueurs, particulièrement les joueurs québécois, les joueurs d'ici. On en veut, on chiale qu'on en a pas, mais quand ils sont ici, c'est sûr qu'on...
Quand même, on est un peuple de fanatiques qui se plaint le ventre plein. On a une équipe, là, chérissez-la, si, en train... prenez-en soin, vierge. On est toujours en train de chialer sur les performances d'un gars, si, qui est un humain comme tous les autres. Là, on se rappelle Patrice Brisebois qui avait reçu des menaces de mort à l'époque. Mmh. Je veux dire, c'est improbable, incompréhensible. Moi, je vous écœure, je vous envie, vous me faites chier. tous ces gens-là, tous ces gens dans des stades-là qui n'ont rien à faire de leur fin de soirée au lieu de chialer, prenez donc un chai latte puis allez promouvoir ce que vous aimez au lieu de bâcher ce que vous détestez. C'est tout ce que j'ai à dire.
Mais ça se produit moins au tennis.
Ouais, ben oui, merci de me placer, Joe. Un gars que j'adore, un des plus grands du tennis de tous les temps, en fait, le Suisse Roger Federer, une des émotions les plus gracieuses dans le monde du sport en ce moment. Le gars va fêter ses 40 ans dans près de 2 mois. Il a foulé les terrains pour la première fois depuis près de 2 ans. Là, on parle de février 2020, ça fait déjà un petit bout de temps. Ouais, son dernier tournoi date de février 2020, donc ça fait un peu plus qu'un an. Maintenant, là, il a repris l'entraînement et il a participé à son premier tournoi en près d'un an et demi à Genève, dans sa terre natale, en fait, en Suisse. Un tournoi sur terre battue où il s'est incliné malheureusement mardi contre l'Espagnol Pablo Andujar un peu plus tôt en journée. À midi 20, pour être plus précis. Donc, l'Espagnol Pablo Andujar, 75e raquette au monde, qui a battu notre grand Roger en 3-7, 4-6, 6-4 et 4-6. Donc, voilà. Mais c'est de bon augure quand même, parce que Roger Federer, on s'entend, là, des fois, lorsqu'il revient de blessure, il est un peu lent avant de reprendre son rythme de croisière. Mais ça devrait se placer pour les tournois sur gazon un peu plus tard en saison. Maintenant, on est en terre battue. Il y a Roland Garros qui s'en vient éventuellement. Mais ça, c'est, de toute façon, c'est la terre promise de notre Raphaël Nadal chéri, le à terre battu. Donc voilà, on suit le déroulement de la carrière de Roger Federer qui, malgré ses presque 40 ans, est encore un des plus beaux joueurs sur le circuit de l'ATP. J'entends. Qu'est-ce qui s'en vient? Qu'est-ce qui s'en vient? Qu'est-ce qui s'en vient? Qu'est-ce qui s'en vient?
Notre sport favori.
Yes, sir! Mais avant, on s'en va en pub. Vous écoutez Conduite Antisportive sur les ondes de Chiz 94.3.
Moins le fun.
À l'avant-garde!
Chérie J'arrive débarque dans vos oreilles tous les jours de 16h à 17h30 pour vous faire découvrir la scène culturelle et artistique de Québec.
Collabos, chroniques, entrevues, tout ce qu'il te faut pour être à l'affût des nouveautés musicales, théâtrales, littéraires, dansées, exposées. Voyez ce qu'on veut dire, là? Chérie J'arrive par Gabrielle Morissette
et Félix Duchesne en semaine dès 16h à Chiz 94.3.
The following program is disturbing.
Crash Crowd. Mardi 20h. Chiz 94.3.
Découte!
La Ville de Québec révèle des talents musicaux qui font maintenant la signature de la scène locale partout ailleurs. Quoi de plus logique que de dédier une émission complète à la découverte de ces artistes d'ici? Écoute locale, la playlist, c'est une émission d'une heure entièrement consacrée aux sorties musicales de la vieille capitale. Tous les lundis 14h sur les ondes de Chiz 94.3. C'est toujours mieux d'écouter local.
Durant quelques heures, les musiciens, les danseurs et les spectateurs ont vibré au même rythme.
Branche-toi sur l'art et la culture d'ici. Écoute local, écoute Chiz 94.3.
Vous êtes de retour à Conduite Antisportive. Je suis en compagnie de Jonathan Parodi, mon acolyte de toujours. Et ben là, on se lance, on vous propose une immersion dans notre sport préféré, qui est le baseball. Joe, ça va quand même. C'est une drôle de saison jusqu'à maintenant, mais on a beaucoup de surprises et beaucoup de clubs qui devraient crouler sous la pression, mais qu'ils ne le font pas. On apprécie, d'ailleurs. Je pense aux Seattle Mariners, les Mariners de Seattle, qui m'étonnent de semaine en semaine, encore là. Mais avant de parler de nos plus grandes surprises et de nos plus grandes déceptions, on se lance dans une espèce de power ranking. Je sais pas comment le traduire en français, mais l'état des forces. Je pense que c'est ça le terme. Qu'est-ce que t'en penses?
Ouais, ça a bien l'air.
L'état des forces dans la Ligue.
Ça sonne bien, c'est moi.
Ligue majeure de baseball. Écoute, quels sont tes plus grands clubs en ce moment, selon les statistiques, mais aussi selon ton feeling, là, Jonathan?
Donc,
problème de fil.
Donc, si, ouais, je suis en train de m'étouffer avec mon fil. Pour commencer, on commence avec le top 5, numéro
vas-y.
5.
Ouais, vas-y.
On va y aller en descendant, comme ça va être plus excitant.
Commence par le positif, là, ce qui va bien en ce moment.
Ouais, ce qui va bien, c'est drôle, mais je vais en parler après, mais j'ai quand même constaté qu'il n'y a aucune équipe qui domine en tant que tel, comme on est habitué de voir à ce temps-ci de l'année.
C'est vrai, hein?
Mais on a tout de même des équipes en haut de classement, dont les Athletics d'Oakland, donc, qui ont connu un début de saison atroce avec 7 défaites d'affilée quasiment. Et puis, on a replacé le tout avec la séquence de victoire, la Moneyball, qu'on a pu vivre dernièrement. Oui, c'est vraiment intéressant. Et là, il se retrouve avec une fiche de 25 victoires de 17 défaites. Mm-hmm. Donc, ce qui est pas mal. Premier au classement dans la division Ouest. Donc, les Athletics, je les vois là, ils pourraient éventuellement descendre, je crois. Je pense qu'ils sont un peu surclassés en ce moment.
Moi aussi, surtout que là, ils ont perdu les services de Jesus Lazardo qui s'est blessé en jouant aux jeux vidéo. Un de leurs meilleurs lanceurs. Il y a aussi Frankie Montas qui lance pas très bien. Puis il y a des gars comme Cole Irwin qui sort de nulle part et qui lance comme un magicien. Là, c'est le genre de séquence que je doute très fort.
Sinon, on pense à un lanceur comme Sean Manea qui connaît presque un match parfait lors d'une sortie et la prochaine accorde je sais pas combien
5 points mérités,
points mérités dans les premières manches donc pas
rien,
très constant
rien n'est certain à Oakland ce que je trouve personnellement là.
En effet. Dans ton cinquième, t'avais qui?
Yes. Je peux te donner mon top 5. Là. Moi, j'ai mis les Dodgers de Los Angeles en premier, même si au classement, ils sont pas premiers, là, tout à fait. C'est un club qui a beaucoup trop de profondeur pour qu'on les place ailleurs que dans notre top 5, selon l'état des forces. Puis là, en plus, c'est pas vraiment une acquisition majeure, mais ils viennent d'aller chercher Albert Pujols.
On peut en parler.
On va en parler un peu plus tard. Mais non, les Dodgers, c'est un club phénoménal. Avec Trevor Bauer, Walker Buehler, Clayton Kershaw, avec un enclos des releveurs merveilleux aussi, c'est le club parfait, là, sans l'ombre d'un doute.
Quand on pense que tous les joueurs blessés vont revenir éventuellement aussi, en plus, Cody Bellinger ou juste Corey Seager, fracturé la main dernièrement. Et, donc,
ça paraît même pas, en fait, parce qu'ils ont tellement de profondeur, ces gars. Il y a un Matt Beattie là, ou un Zach Minkinstry va venir remplacer puis va super bien faire. C'est assez fou ce que ce club-là fait.
Je suis d'accord, mais ils sont pas aux attentes vraiment des...
Non. Mais pour l'instant.
De ce qui devrait être, en fait.
Pour l'instant, je pense qu'il y a eu une séquence de 4 ou 5 victoires d'affilée là, récemment. Ça se place.
Ouais, mais on parle d'une série contre les Marlins et les Mariners. Ouais. Donc, c'est sûr que quand on va... Là, cette semaine, la première affrontement contre les Giants, ça, c'est très attendu. Ça va être...
C'est un club qui va bien, ouais.
Très bien, trop bien.
Ouais, beaucoup trop bien.
Ouais. on va en parler aussi.
Yes.
Sinon... En quatrième, moi, j'ai les Astros de Houston.
Okay.
En ce moment, ils sont sur une séquence de 6 victoires de suite. José Altuve frappe comme il n'a jamais frappé. Et puis, ça se replace de leur côté. Les Astros, je pense qu'ils ont encore les outils et la profondeur pour s'en rendre. Et peut-être même gagner la division.
Tout à fait, moi aussi. À contre-cœur.
Avec
entrain.
Non.
Moi aussi, là, je pense que les Astros vont gagner la division. Je pense que c'est indéniable, presque. Là. Mais bref, on leur souhaite tous les malheurs du monde aux Astros de Houston. Moi, là, en quatrième position, j'ai un club. Là, je vous casse les oreilles à toi et PA à chaque semaine avec ça, mais les Red Sox de Boston sont tellement bons cette année. Jonathan, Colin! C'est non, je sais pas. Écoute, j'ai la frénésie de la Red Sox Nation. Là. J'ai le goût d'aller au Fenway Park à chaque semaine, Colin, pour voir les Red Sox. Je le répète, Xander Bogaerts est le meilleur arrêt court dans la Ligue en ce moment. Il n'y a même pas de contestation possible. Raphaël Devers est fou raide au troisième but aussi. Les gars lancent. Là. Nick Pivetta lance.
En fait,
tu viens
de nommer deux
lance.
Des trois seuls joueurs qui contribuent. Là. Je parle de ces deux-là, puis avec le début de saison de J.D. Martinez aussi.
Oui, J.D. Martinez est fou raide
la
aussi.
La rotation fait bien aussi.
C'est ça, c'est là le point d'interrogation, je pense, de la rotation. Et contre toute attente, les Red Sox sont super bien. Justement, je parlais de Nick Pivetta qui a un ERA juste en bas de 3 ou presque. Là. 6 victoires déjà depuis le début de la saison. Garrett Richards aussi, il lance des matchs à 10 retraits sur des prises.
Ou Nathan Eovaldi aussi.
Nathan Eovaldi aussi.
Mais on parle d'une
bon.
Saison de 162 matchs. C'est pas des lanceurs nécessairement qui peuvent garder la cadence, je crois. Surtout, là, les Red Sox vont affronter en grande partie les Yankees, les Rays de Tampa Bay, qui ne sont pas à sous-estimer
plus. C'est des clubs prenables pour les Red Sox. Les Yankees ne vont pas super bien. Les Rays, manque de bâton.
L'offensive fait dur cette année.
Après ça, tu as les Orioles, mais les Blue Jays. Moi, je pense que les Blue Jays, c'est peut-être le meilleur club en ce moment dans cette division-là. Les Orioles, c'est un club prenable à chaque série. Fait que ça fait une série gratuite là, la semaine qu'on joue contre les Orioles. Je pense que les Red Sox, là, qui ont une fiche de 25-17, là, c'est pas rien depuis le début de la saison. Moi, je les place dans mon top 5 selon l'état des forces. Yes, c'est un gros club.
Parfait.
Puis un club qui gagne. Là. C'est un club qui, en séries éliminatoires, peuvent très bien remporter les grands honneurs.
C'est sûr. Les Red Sox, c'est sûr. Moi, je parle à contre-cœur.
Je les ai placés
sixième, pour être exact.
Je sens le dédain à travers ton micro et dans tes yeux.
je leur souhaite que du mal, en fait.
Oh, ouais.
C'est presque autant que les Yankees, mais mais on peut pas enlever, on peut pas leur enlever en, ce qu'ils font en ce moment, leur bon début de saison, en effet.
Tout à fait.
En troisième,
j'avais les Astros de Houston, mon top 5, 24-17. C'est un club trop fort avec les Jose Altuve, Alex Bergman, mais un des meilleurs troisième buts en ce moment. Justement, je parlais de Devers, là, c'est aussi une des puissances à sa position. Puis les lanceurs, en fait, qui remplacent, là, il y a un gars qui s'appelle Luis Garcia, qui prend la place dans la rotation de Framber Valdez, qui est blessé. Fait super bien, là, je l'ai dans mon fantasy. Écoute, je suis étonné de ses performances. Sinon, c'est un excellent club de balle.
Oui, oui. La semaine dernière, justement, en parlant de fantasy, j'affrontais un club qui est pratiquement composé des joueurs des Astros.
On salue Samuel Garneau, d'ailleurs, si tu nous écoutes.
Et il m'a battu assez... assez
fondant,
ouais.
Couture, hein?
Ouais, dû à l'offensive, bien évidemment.
Ben oui, exact.
Et ben, les lanceurs aussi font quelques biens. On va parler de Greinke aussi un peu plus tard.
On va parler de Zach Greinke, qui est un vieillard, mais qui vieillit comme le bon vin. En deuxième position, moi, j'avais les Padres de San Diego avec une fiche de 25-17. T'en parlais un petit peu plus tôt, Jonathan. On s'en parlait, je pense, en dehors des ondes. Mais c'est un des seuls clubs dans les majeures qui a une moyenne de points mérités cumulative en bas de 2.
Le seul club,
ouais. Hein, c'est ça. Tu vois, c'est fourré d'une moyenne de points mérités en bas de 2. Donc, on accorde moins de 2 points par match étalé sur 9 manches en moyenne. C'est fou, Red.
C'est très impressionnant.
C'est vraiment impressionnant.
Dû en partie, là, ça l'a aidé dans la marge de statistiques, le no-hitter de Joe Musgrove.
Ouais,
on va parler des acquisitions des Padres qui sont très rentables cette année.
Yes.
En parlant de leur closer aussi, Mark Melanson.
Oui, le vieux Mark Melanson qui a l'air d'un Marine. Là. Il a une tête de militaire américain républicain. Lui, là, il est affreusement laid. Par contre, c'est un excellent lanceur. Puis je pense qu'il y a une assurance puis une prestance là, derrière le monticule. Là, un gars de fin de match qui fait peur. Moi, j'aimerais pas ça frapper contre Mark Melanson. Vraiment, ce gars-là, il a une dizaine de sauvetages déjà depuis le début de la saison. Assez impressionnant.
Oui, c'est le meneur dans la ligue en ce moment. Yu Darvish qui a lancé un match impeccable hier.
Ouais, c'est un gars que PA, d'ailleurs, notre co-animateur, adore. Yu Darvish, il le voit dans sa soupe et dans ses alphabets le matin.
Et avec raison. On lui donne toutes les raisons du monde. Juste hier, aucun but sur balle, 7 strikeouts, je pense. Il reprend vraiment une bonne forme.
Ouais.
C'est le fun de l'avoir allé. On a vu.
Blake Snell, là, hein?
Ouais, il manque juste lui à embarquer dans le train.
Il lance ce soir, je crois, en plus.
Ouais, contre une équipe qui est très possiblement battable, ouais. En fait. On parle des Rockies de
surtout à
Colorado.
San Diego. C'est ça. Blake Snell lance pas au Coors Field, donc il lance à domicile contre les Rockies. Effectivement, là, c'est peut-être l'occasion de regagner ses lettres de noblesse.
Ouais, c'est un des derniers là, qui dans les accusations du moins là, qui reste.
Accusations à... ou des acquisitions.
Des acquisitions.
Ouais.
Et avec Ah Seong Kim aussi.
Ouais,
en fin de semaine, ça a été intéressant. On a vu Kim contre Kim. Là,
ouais. Avec le lanceur des Cardinals.
Ouais, avec les Cardinals, c'était bien cocasse.
J'aime bien Kwon Hon Kim des Cardinals. PA l'appelle Quiet Young Kim parce qu'il est très discret. Disons, ce lanceur-là. Bref, oui.
Les Padres, je les avais placés en troisième.
OK, on est proche.
Non, c'est ça, on se tient pas de pire. Au niveau des Dodgers, par exemple, moi, je les avais placés 14e.
Oh, God, wow.
Donc, je crois qu'il y a beaucoup d'autres équipes avant eux qui peut-être qui passent dans l'ombre un peu, mais qui méritent plus leur place. Dans le classement.
Yes. Est-ce que
certainement pas en cinquième.
Est-ce que tu avais mis les Giants dans ton top 5?
Oui, c'est le prochain. Les Giants, c'est les prochains. Ils m'épatent complètement au niveau des lanceurs, au niveau aussi de la production offensive, la défensive aussi. C'est dur de croire que ça va tenir pendant une saison de 162 matchs, mais pour l'instant, Alex Wood...
Incroyable. Je l'ai dans mon fantasy et je savoure. Savoure ses victoires.
Profite-en, mon
ami. Ça va super bien. PA, lui, a Kevin Gossman aussi qui fait très bien. Mm-hmm. Une acquisition, d'ailleurs.
Ah, on a peut-être 2 ou 3 lanceurs qui vont se ramasser dans le match des étoiles.
Ouais.
Puis
Gossman est peut-être une saison de Cy Young. Là. Pas nécessairement dans les statistiques, mais il va être certainement dans le top 10 des candidatures pour... pour le lanceur par excellence dans la nationale.
Personne ne s'attendait à les voir premiers devant les Padres, devant les Dodgers. Et là, ils vont, ça va être une course à trois équipes jusqu'à présent dans cette division-là.
Yes.
Bien intéressant.
Yes.
On a deux équipes qui sont plus vraiment dans le portrait. Là, les Diamondbacks, ça va super mal.
Ouais, il y avait une bonne séquence là, quand la période où Madison Bumgarner a lancé un match sans poigner de coup sûr, ça allait plutôt bien dans cette période-là. Mais après, il y a eu beaucoup de blessés.
Jusqu'au
aussi.
Match de 17-6 contre les Nationals, là, ça a fait mal.
La blessure de Ketel Marte aussi. Les Diamondbacks écopent. Mon dernier club, Jonathan, dans le top 5, là, c'était les White Sox de Chicago.
Moi aussi.
Ah, crime!
Yeah! Bien évidemment.
Ce qui se ressemble, ça semble. Hein? Moi, les White Sox, quel beau club de balle, surtout au bâton. C'est des gars avec du swag. Là. C'est des latinos qui sont exubérants. C'est genre un très, très beau club.
Qui aime jouer. Ouais, Tim Anderson, on voit la passion dans ce joueur-là.
Vraiment, il court comme un débile. La combinaison Moncada, José Abreu est vraiment très cute. Hermine Mercedes, il lâche comme un train, il frappe comme un dieu. C'est très, très beau de les voir aller. Et bien... étonnamment, il y a plusieurs lanceurs qui font très bien, des lanceurs partants, entre autres. Dallas Keuchel a lancé 7 manches, a donné 2 points avant hier. Dylan Cease, qui est passé très près d'un match sans point de coup sûr il y a quelques semaines. Carlos Rodon aussi, qui a lancé un match sans point de coup sûr aussi. Il y a plusieurs semaines. Ça va très bien du côté des White Sox.
Hier, avec une performance de 16 points mérités contre 4 contre Minnesota qui contre toute attente
il croule
sous la pression.
Mais c'est le match de Dallas Keuchel justement, il a lancé 7 manches. Je l'ai acquis justement dans une de mes autres fantasy et ben j'ai savouré aussi.
T'as bien fait.
Sa victoire.
Ta troisième victoire de la saison, c'est très très bien. Keuchel qui reprend un peu ses formes d'antan.
Ouais, là il est maintenant une moyenne de points mérités de 4.44 pour être plus précis. Donc voilà, c'était notre top 5 de l'état des forces dans la Ligue majeure de baseball. On s'en va dans le bas du classement, au bas de l'échelle.
Au bas de l'échelle, oui. Il en faut.
Il faut parler. Il faut être un peu négatif malgré tout.
Il y a beaucoup d'équipes surprenantes cette année aussi qui se retrouvent dans le bas de l'échelle.
Qui sont tristement célèbres.
Oui. Et là, on parle du quart de saison, donc environ une quarantaine de matchs de jouer jusqu'à
on
présent.
On a presque la saison de l'an passé de fait. Là. Ça ressemble à ça.
C'est vrai.
Ça ressemble
aussi.
Un peu à ça. Là. Les statistiques commencent à se comparer.
C'est vrai. En dernière position, je vais y aller avec 26e, mettons. Y a les Royals de Kansas City qui ont connu un très beau début de saison. J'en ai même parlé lors d'une chronique que je les ai que vantés. Ouais. Mais en ce moment, il n'y a plus rien à dire, malheureusement. Autant défensivement, ils font beaucoup d'erreurs sur le terrain. Les lanceurs craquent un peu...
Chasse le naturel, il revient au galop. Et là, je pense que c'est l'état naturel pour les Kansas City Royals. La séquence au début aussi de Whit Merrifield, même Michael A. Taylor, qui est le voltigeur de centre, qui joue régulièrement, frappait vraiment très bien. C'était surprenant. C'est ça. Je pense que ça se place. Aussi, il y a eu l'espèce de lune de miel avec notre guitariste préféré Carlos Santana. Je pense que ça allait un peu trop bien là, pour les Royals. Quelques acquisitions aussi, Hanser Alberto qui fait pas très bien, a acquis des Orioles de Baltimore. Il y a aussi Hunter Dozier qui s'est blessé. Lui qui est très très bon normalement en puissance, donc à frapper des circuits, n'est pas de l'alignement depuis quelques semaines déjà. Salvador Perez est une des plus belles... comment dire, valeur sûre de ce club-là.
Mais sinon, derrière le marbre, pas
sinon
mal
ça va moins bien aussi au Monticule. Brady Singer, là, un de leurs jeunes joueurs très prometteurs, a eu quelques sorties ratées. Pareil pour Danny Duffy, qui avait un très bon début de saison aussi. Puis Keller aussi, Brad Keller, qui lance pas très bien. Fait que ça se place, en fait, c'est un peu normal là, pour les Royals. Qui sont un club de milieu de peloton, disons.
Qui affrontent Woodruff à soir. Ce sera pas facile.
Si vous avez des joueurs, des frappeurs, en fait, des Royals, vous pouvez les laisser sur votre banc, je pense, ce soir. Woodruff est excellent.
Moi, j'y paierais, justement, mais ça me.
C'est Salvador Perez.
C'est peut-être lui qui serait plausible de garder.
Lui et Merrifield, je pense, c'est les deux valeurs sûres dans ce club-là. Donc, voilà.
En effet.
Le petit conseil Un petit conseil de pooler.
Quelle autre équipe fait dur en ce moment?
Moi, j'ai mis les Rockies du Colorado là-dedans. Écoutez, c'est pas facile de jouer au Coors Field, même pas pour les Rockies. Surtout pas avoir perdu les services de Nolan Arenado. Hein? On s'ennuie, je pense, à Colorado, d'un gars comme Arenado.
Qui était le visage de la franchise aussi.
Ouais, exactement.
Là, on parle d'échanger Trevor Story aussi en ce moment. C'est des rumeurs qui circulent.
On parle peut-être des Yankees. C'est le club qui cherche un joueur d'arrêt-court de talent.
Ou des Rays. Les Rays aussi cherchent un
joueur. Est-ce que les Rays pourront payer Trevor Story? Ça, c'est une autre chose.
Non, ça, c'est une bonne question. Ouais. Mais c'est ça, la position d'arrêt-court qui est à corriger de ce côté-là. Le William Adames et Joey Wendell, en fait.
Ouais, ça va. C'est pas des gars.
Quand ils veulent. C'est
pas des joueurs réguliers qui vont produire à un rythme effréné.
Il manque une certaine constance. Malgré que Willy Adames, moi, c'est mon joueur préféré.
Ah, mais défensivement, c'est du béton. Il n'y a rien qui passe à la
Ouais, c'est impressionnant. Puis juste son énergie aussi, ce qu'il amène à l'équipe.
Tout à fait. On l'a vu en série des éliminatoires, c'est un de mes joueurs préférés.
Oh, ouais, c'est contagieux. Là. C'est tout à fait contagieux.
Tout à fait. Belle énergie.
Il y a quelques circuits aussi cette année. Lui, c'est un des joueurs justement qui en parlait la semaine dernière, des joueurs qui veulent vraiment la frapper et démolir un peu. Ouais. J'ai l'impression que c'est un de ces joueurs-là qui prend ses moments vraiment, mais qui a beaucoup de rétro bâtons.
C'est un joueur assez costaud, mais effectivement.
Les Rays, en fait, l'équipe au complet qui a beaucoup de rétro bâtons. Ouais. C'est l'équipe la plus retirée à ce niveau-là.
Un ratio but sur balle et retro bâton qui fait dur, disons-le. C'est peut-être sur ça. Et c'est le cas de Willy Adames qui frappe même pas pour 200 ou à peu près. Donc, ouais, moi j'avais les Rockies du Colorado pour en venir assez rocailleux. Donc, ouais, les Rockies, ça va pas super bien. Leur meilleur lanceur, Herman Marquez, se fait poivrer à chaque sortie, surtout au Coors Field, évidemment, parce que la balle voyage énormément. Une des seules lueurs d'espoir, c'est le grand gaucher John Gray, qui a une bonne moyenne de points mérités. Sinon, écoutez...
Puis il a lancé hier aussi.
C'est ça.
Ça n'a pas très bien terminé non plus.
C'est sa pire sortie de la saison à date, effectivement. Ça va pas super bien. Ça va pas super bien pour les Rockies, puis ben ça risque de pas vraiment se placer. Je vois pas vraiment de lumière au bout du tunnel pour les Rockies.
Soit qu'ils vont profiter de la séquence un peu boiteuse de Blake Snell ce soir.
Peut-être.
Ou que Blake Snell va revirer ça de côté contre.
Je pense que ça va être une grosse sortie pour Blake Snell.
Pense,
il est dû, là. Il est vraiment très dû. Il a pas passé la sixième manche, je pense, depuis le début de la saison.
Non,
Il est dû pour un départ de qualité.
Faut pas se laisser avoir non plus par l'équipe qui affronte une de ses sorties contre les Pirates, si je me trompe pas. Il s'est fait sortir après une ou deux manches.
T'as raison.
Donc, ça va être à voir contre Gomber, que je sais pas c'est qui non plus.
Austin Gomber, pas très bon, correct. Lanceur gaucher, si je me trompe pas. Donc ouais, les Rockies étaient dans mon pire classement. Sinon, ben j'avais les Diamondbacks aussi, comme toi, Jonathan. Et j'avais aussi les Pirates de Pittsburgh, que tu viens de souligner. Les Pirates qui ont perdu les services de Key Brian Hayes, qui est le visage de la franchise maintenant, le joueur concession.
Ça les
si
a frappés fort au début
tout
de la
fait,
saison.
Tout à fait. Mais j'ai regardé quelques matchs, là, entre autres contre les Giants, parce que je voyais Alex Wood qui lançait. C'est un club qui, avec les Brian Reynolds et... c'est comme les Colin Moran aussi, Kevin Newman. C'est des gars qui sont de bons frappeurs de bas d'alignement, mais qui doivent frapper maintenant au haut de l'alignement parce qu'il y a un manque de profondeur à Pittsburgh.
Il n'y a pas de profondeur.
Justement, ouais, c'est ça. Il y a de l'eau dans la cave, là, littéralement, pour ne pas faire une référence à l'émission de Mathieu Gagnon sur les ondes de schiste. Mais oui, effectivement, les Pirates de Pittsburgh qui... manque beaucoup de profondeur, il manque de bâtons, là, c'est flagrant. Puis je veux dire, il manque un as dans cette rotation-là. Nomme-moi un lanceur partant des Pirates, je te mets au défi. Là,
c'est difficile,
c'est tous des gars méconnus ou très peu connus seulement dans leur famille.
Brubaker.
JT Brubaker qui est le meilleur lanceur en ce moment pour les Pirates, effectivement. C'est tout. Puis avant la saison, là. Personne connaissait JT Brubaker, tu sais.
Non, en effet.
Puis c'est fou, là, tous les lanceurs qu'on a donnés au fil des ans. Les Joe Musgrove, les Tyler Glasnow, les Jameson Taillon, c'est assez fou.
Puis comme dernière équipe,
Vas-y, Joe.
C'est une grosse surprise de les voir là. En tout cas, à mon avis, les Twins du Minnesota,
ouais, okay,
qui se sont fait laver hier soir. Et puis, ouais, en fait, toute la série, c'est tous des matchs à domicile. En plus, je regarde ça, ça fait mal au cœur, les voir crouler comme ça. Il y a absolument rien qui se passe. On a eu une petite lueur d'espoir avec, je crois, un circuit de Nelson Cruz en fin de partie.
Il y a quelques gars qui frappent là, les Byron Buxton, Nelson Cruz. Je pense que Max Kepler s'est replacé un peu. Il y a un grand chelem, mais tu sais.
On accorde tellement de points que on n'est pas capable, avec le peu d'offensive, de rattraper
la marche. Les lanceurs de fin de match. Alex Colomé, là, acquis des White Sox. Là. Mon Dieu, on a détruit la confiance de ce gars-là. Là. Le manager, le gérant des Twins. Comment il s'appelle déjà? Rocco Baldelli. Ouais. Rocco Baldelli a gardé ce gars-là là, pendant deux manches une fois, alors qu'il avait donné trois points en huitième. Je veux dire, c'est impardonnable. Le gars, il est détruit. Et on n'a plus de relève. Résultat de tout ça. Là. Ça va pas bien.
Ça va vraiment pas bien. Hier, on a terminé le match avec un joueur de position et Mercedes qui en a profité.
C'est quoi ton pire club avant que je te propose un petit duel, un petit jeu?
Mon pire club, c'était les Twins.
C'était les Twins du Crime Puff. Moi, c'est les Tigers et Détroit. Ouais, c'est ça. Je pense qu'on se fie un peu là-dessus aussi. Là, les Tigers, il n'y a rien à dire. Il n'y a littéralement rien à dire. Petit point.
Comme on fait avec chaque équipe de Détroit, d'ailleurs.
Oui, exactement. Somme toute, les Tigers ont gagné hier soir contre les Mariners. Belle sortie de Casey Mize, qui est leur lanceur prometteur, là, un ancien choix de première ronde, premier au total. Donc Casey Mize a bien fait sa première victoire de la saison. Mais sinon, écoute, c'est ça pour les Tigers. C'est ce qui fait le tour d'horizon dans notre état des forces du baseball majeur. Jonathan, je te propose un jeu. Qui est plus décevant entre deux joueurs? Deux noms seulement, pour un temps seulement.
Toi.
Yes, moi je suis décevant, je suis vraiment décevant. Mais non.
Je t'écoute.
Trêve de plaisanterie. On a parlé de Blake Snell des Padres. Je te propose, qui est le plus décevant entre Blake Snell ou Luis Castillo, le grand lanceur des Reds de Cincinnati?
Ça, c'est un no-brainer. Luis Castillo est hyper décevant. On avait beaucoup d'attentes face à lui. Une victoire, 5 défaites. Il y a un ERA de 7.71, ce qui est...
Je pense que c'est un clone, en fait. C'est pas Luis Castillo. Il est méconnaissable.
Non, c'est ça. C'est ce que j'allais dire. On dirait même pas que c'est lui. Versus Blake Snell, qui, oui, est quelque peu décevant, mais qui a pas coûté en tant que tel à son équipe.
Exactement. Il y a pas eu de sortie là, hasardeuse, ou ce qu'il y a dû. Ben, je pense qu'il y a une fois ou deux qu'il a dû sortir en première ou deuxième manche, mais encore là, les dommages n'étaient pas ultra faits. Je pense qu'il a donné 3 ou 4 points. T'sais.
L'équipe a pu récupérer.
C'est ça. Il n'a pas donné 10 points en première. Là. Comme les sorties de Luis Castillo, il nous donne des 7 points par match. Là. Non, vraiment. Puis c'est un gars qui, j'entendais un podcast là-dessus, ne lance pas beaucoup de changements de vitesse maintenant. Je pense que 60% de ses lancers, c'est des balles rapides, alors qu'à l'inverse, l'an passé, c'était 60% de changements de vitesse. Donc, je sais pas qu'est-ce qui se passe.
Ça peut expliquer un peu ses déboires.
Exactement. Francisco Lindor, joueur de récord des Mets, qu'on a signé avec un contrat faramineux cet été, ou un gars qu'on aime pas tant avec les Yankees de New York, le beau minou DJ LeMahieu.
Ouais, mais c'est DJ LeMahieu, en fait, c'est le seul que j'ai dans mon pot, donc le seul joueur que je suis un peu, entre guillemets, avec les Yankees. Ouais. Et il me produit quand même quelques points par soirée. Là, si
il a volé quelques buts aussi depuis le début de la saison.
Contrairement à Francisco Lindor qui commence tout juste, là, et même à ça, c'est à peine concevable qu'il ne produise pas autant. Là, on avait
beaucoup d'attentes, en tout cas.
Ben, juste vu le contrat qu'on lui a accordé, c'est avec...
Quoi, 200 raison. Millions, tu sais, ça n'a pas rapport. Oui, effectivement, grosse déception, Francisco Lindor.
Mais c'est pas fini, je crois, pour lui. Ouais. Il va peut-être pouvoir se relever, là, puis produire au moins, puis amener quelque chose aux Mets qui en ont besoin. Ils ont connu une bonne séquence, cette victoire. Ils ont fait ralentir par les Rays.
C'est vrai. C'est vrai.
Par un balayage.
Oui, c'est vrai.
Yes.
T'es fier, hein, là.
Ah, ben, j'étais bien content. C'est des affrontements quand même hors du commun, là. Mets-Rays. Donc,
ouais, ça arrive pas.
Je les ai regardés les trois au complet. Et puis, c'est ça. Je dirais Lindor.
Moi aussi, je pense que je prends Lindor, qui est décevant. Très décevant. Avec une équipe qui en arrache les Mets de New York. Kevin Biggio, qu'on voit ici, pas trop loin, du côté de Toronto, ou Jeff McNeil, qui est un autre joueur, qui joue à peu près à toutes les positions avec les Mets de New York.
Je dirais qu'avec Biggio, Ouais. Là, c'est sûr qu'il est un peu outshine, si je peux dire, par les autres frappeurs étoiles des Blue Jays. Ouais. Guerrero, c'est Junior qui frappe comme un monstre déchaîné. Ouais. Et puis.
C'est George Springer qui est revenu du jeu.
C'est vraiment beau à voir aussi un joueur de cette étoffe-là. Puis vraiment avec l'histoire qu'il y a avec son père aussi, tout, de le voir autant bien performer avec notre équipe canadienne comme c'est ça. Puis vraiment, là, il aide l'équipe à grandir, même s'il porte un peu des fois sur ses épaules. Les lanceurs, il y a Ryu ce soir qui va affronter les Red Sox, justement.
C'est un
bon affrontement que je peux pas regarder malheureusement à cause des maudits blackouts.
Oui, c'est vrai, les restrictions.
Mais je dirais Biggio.
Moi aussi, je prends Biggio. Jeff McNeil, il est quand même utile à son équipe. Il peut jouer à toutes les positions, donc c'est quand même utile. Lucas Giolito. Le grand lanceur des White Sox de Chicago, grand droitier qui en arrache un petit peu aussi en ce moment. Ou Zach Greinke, le vétéran des Houston Astros.
Le plus décevant
en ce moment, avec ça, d'ailleurs.
C'est Giolito, qui était supposé être l'as de la ligue au complet. Et puis en ce moment, une fiche de 2 victoires, 4 défaites, un ERA de presque 5, une moyenne de points mérités.
Sa balle courbe, là, elle demeure suspendue, là, mais au moins 4 à 5 fois par sortie. C'est fou raide, là, je le regarde un peu. Là, elle a pas de mordant du tout, sa balle courbe. Puis alors, normalement, elle bouge tellement que les frappeurs se ramassent à genoux. Mais là, ça se passe vraiment pas du côté de Lucas Giolito.
Non, donc sans hésiter, c'est Giolito.
Ouais, aussi, Zach Greinke, ben là, je veux dire, c'est un gars qui connaît, comment dire, ses limites et ce qu'il doit faire pour revenir à un état naturel, tu sais, à une constance au niveau de ses performances. Donc, je suis pas vraiment inquiet pour Zach Greinke. Merci, Jonathan, d'avoir parlé de baseball aussi longtemps avec moi, aussi de hockey et de tennis.
Toujours un plaisir.
Yes, on se revoit la semaine prochaine pour une autre émission de Conduite Antisportive.
Yes, sir.
Vous écoutez Chiz 94.3 FM, Québec.
Avide de découverte? Tu veux être informé de tout ce qui se passe dans la ville de Québec et sur les ondes chiziennes? Visite le www.chiz.ca. Tu y trouveras critiques musicales.